en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Canal Académie, la première radio académique francophone, pour la séance publique. Séance prononcée dans le cadre de l'année de travail de l'Académie des sciences morales et politiques. Une année placée sous la présidence de l'historien Jean Tullard. Jean Tullard qui a défini comme séance et comme thème de travail cette année « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Tous les lundis à 15h, le palais de l'Institut de France Quai Conti à Paris accueille les séances publique de l'Académie des sciences morales et politiques de 15h à 16h. Une personnalité extérieure à l'Académie ou un membre de l'Institut vient plancher devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques et en l'occurrence le lundi 21 mars 2005, c'était au tour de Madame Martine de Boisdeffre de s'exprimer. Martine de Boisdeffre, directeur des Archives de France, thème de sa communication, les archives nationales. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Madame et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, c'est un grand mais redoutable honneur que d'être convié à m'exprimer devant une telle assistance sur un sujet pour moi très rebattu, connu de la plupart d'entre vous et sur lequel je crains de ne pas avoir vraiment beaucoup d'éclairages nouveaux à vous apporter. La fortune souriant aux audacieux, je vais pourtant m'y essayer en abordant successivement trois points qui joue de la polysémie dans notre langue du mot « archive ». Ce mot désigne en effet aussi bien les documents d'archives que les bâtiments destinés à les conserver et les administrations dont la vocation est de les collecter. Je traiterai donc d'abord des archives nationales, documents constitutifs de la mémoire de la nation, ensuite des archives nationales, bâtiments, qui mettent la mémoire en ces lieux, enfin des archives nationales, éléments du réseau des archives de France et en France. Mais pour commencer quelques dates, afin de rappeler l'apparition et le contenu originel de l'appellation archives nationales, puis son évolution. Dès le 29 juillet 1789, l'Assemblée réunie à Versailles crée son propre service d'archives qui est transféré aux Tuileries le 10 août. Le 12 septembre 1790 sont créées les archives nationales après sanction par le roi d'un décret en date du 7 septembre. Le décret du 2 novembre 1793 place tous les dépôts existants sous une autorité unique, celle de l'archiviste de la République. La loi du 25 juin 1794, loi du 7 Messidor en deux, fondamentale pour les archives car elle fut la première loi et demeura la seule jusqu'au 3 janvier 1979, prescrit un contrôle centralisé des triages et de la conservation des documents. L'article 1er dispose, je cite, que les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République. L'article 3 précise que, je cite, tous les dépôts publics de titres ressortissant aux archives nationales comme à leur centre commun. L'article 37 pose quant à lui pour la première fois le principe du libre accès aux archives. Base de l'organisation des archives nationales, la loi fonde aussi l'équivocité du terme « archive » en sa triple signification. Le 26 octobre 1796, Brumaire-Hansin a décidé le rassemblement dans les chefs-lieux des départements des archives locales d'Ancien Régime qui allaient devenir les archives départementales. En 1800, les archives nationales sont séparées de l'Assemblée par un arrêté des consuls. En 1808, Napoléon installe les archives impériales à Soubise, le palais Soubise, l'hôtel de Soubise. Elles n'en bougeront plus. Ce bref résumé est déjà fort éloquent. Les archives nationales naissent de la Révolution et ne peuvent prétendre prendre la suite d'un service royal préexistant. Celui-ci n'a jamais existé en effet en tant que tel. Les archives nationales sont d'abord en 1789 celles de l'Assemblée, même si elles en sont assez vite séparées. Mais surtout, le décret du 12 septembre 1790 précise: les archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois, sa distribution en département. comme le note Lucie Favier dans son remarquable ouvrage La mémoire de l'État, histoire des archives nationales, c'est une institution centrale de la France qui apparaît, dont la vocation est de conserver les titres de l'État nouveau. L'intérêt des archives pour la Révolution n'est pas historique. La notion de monument historique, présente dans le projet initial de décret à l'instigation de Camus, n'a d'ailleurs pas été retenue. Leur intérêt tient à leur valeur juridique, probatoire. Il s'agit de fonder les droits du nouveau régime naissant, de la République bientôt. Et c'est bien la théorie que propose Armand Gaston Camus, premier archiviste, premier garde des archives, dans le mémoire qu'il écrit sur le sujet suivant, « Les dépôts de chartes, titres et registres, documents et autres papiers qui existaient dans le département de la Seine et sur leur état au 1er janvier 1789, sur les révolutions qu'ils ont éprouvées et sur leur état au premier niveau de l'an 6. » Tout en soulignant l'extraordinaire diversité et dispersion des fonds, Camus développe l'idée selon laquelle les pièces anciennes, ayant perdu leur valeur juridique et ne gardant qu'un intérêt historique, iraient dans les bibliothèques. Les archives, instruments pour et de l'exercice du pouvoir, iraient ailleurs, dans un ou plusieurs dépôts spécialisés. Une telle conception retrouve, à vrai dire, celle qui inspire les lettres de Philippe le Bel, qui commette, en 1309, Pierre d'Étampes, alors greffier principal de la Chambre des comptes, à la garde des archives. Qu'il voit, examine, met en ordre et range dans les armoires les lettres, chartes et privilèges, afin de les conserver le mieux possible, pour qu'ils soient le plus sûrement et le plus facilement utilisables lorsqu'il sera nécessaire. Et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour les conserver sûrement et les retrouver rapidement. Cette idée inspire encore Denoux en 1812, où Félix Ravaisson-Mollien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, est rapporteur de la commission instituée en 1861, afin d'étudier les transferts de collections souhaitables entre les archives et les bibliothèques. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle, sous l'influence conjuguée à l'intérieur d'un Michelet ou d'un Léon de Laborde, à l'extérieur d'historiens et de politiques, y compris des souverains décidés, désireux d'ancrer leur règne et leur régime dans la continuité de l'histoire, qu'émergea l'idée des archives comme mémoire de la nation offerte aux citoyens. Les grands dépôts sont ainsi construits pour être ouverts au public. Le marquis de Laborde crée le musée des archives nationales, destiné lui aussi bien sûr à être visité en 1867. Les archives nationales, mémoire de la nation. Elles n'en sont pas toute la mémoire, mais elles en représentent une part essentielle, au terme même de l'article 5 du décret du 3 décembre 1979 qui fixe leurs compétences. Les archives nationales sont en effet constitutives de la mémoire collective et nationale, dans trois de ses dimensions au moins. Dans sa continuité d'abord, dans la durée, du 7e siècle jusqu'à nos jours, au-delà de nos si fréquents et multiples changements de régime. Dans sa plénitude ensuite, sinon son exhaustivité, les archives nationales gardent une trace de tous les moments importants de l'histoire de notre pays. Elles conservent aussi des documents relatifs aux éléments constitutifs de l'identité de la nation, à sa langue, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, à sa géographie, dans ses subdivisions et à travers ses routes, je songe à l'Atlas de Trudaine, à ses instruments de mesure, les premiers mètres et kilogrammes et talons sont aux archives nationales, à sa monnaie. Dans la diversité de ses acteurs, enfin, qu'il s'agisse des archives des rois aux présidents, Valéry Giscard d'Estaing fut le premier président à verser ses archives en tant que tel, archives des premiers rôles, les grands ordres, les grands hommes, mais aussi des seconds, avec les cahiers de doléances, les actes commerciaux passés devant notaire, archives aussi des groupements, associations ou entreprises. Les archives nationales sont également, les derniers exemples cités le montrent, un élément constitutif de notre histoire personnelle et familiale, de notre mémoire individuelle. Cela se comprend aisément, bien sûr, pour les grandes familles, dont les fonds sont rassemblés au sein des archives privées du Centre historique des archives nationales, de même que pour les papiers d'hommes politiques, de scientifiques, de militaires, d'artistes. Mais cela vaut aussi pour tout un chacun, à travers les dossiers de carrière, les décrets de naturalisation, les décorations. Traces de notre histoire passée, les archives nationales sont source de l'histoire, en train de se faire, une des premières et une des plus riches. Archives et histoire de la nation sont inséparables. Les archives sont elles-mêmes issues de notre histoire. L'histoire, science, se fonde sur des sources. Elle les appelle, elle les exige. Elle les trouve très souvent dans les archives. Celles-ci sont donc sans doute indispensables à l'historien. Mais il ne suffit pas de les lire pour détenir la vérité sur un événement ou sur un personnage. L'historien doit leur appliquer sa méthode d'analyse critique, de recoupement, de confrontation, pour accomplir au mieux sa tâche et aider à l'établissement de ce que Paul Ricoeur appelle la juste mémoire. Cette mémoire, enfin, n'est pas une mémoire figée. Elle est au contraire pleinement une mémoire vivante. Vivante car toujours en cours de constitution, à travers la collecte. 4 kilomètres linéaires entrent en moyenne par an d'archives publiques au Centre des archives contemporaines à Fontainebleau. À travers donc des flux constants, des flux si importants qu'il faut trier et sélectionner, ce que contestent certains, mais qui est indispensable au risque d'être submergé par les archives et finalement de perdre toute capacité de les exploiter. Mémoire vivante, dont les supports changent, faisant évoluer conséquemment le rôle et le moment d'intervention de l'archiviste, des papyrus, parchemins et autres tablettes de cire, jusqu'aux papiers de différentes qualités et aujourd'hui aux archives électroniques. Les techniques de conservation changent, et donc le savoir de l'archiviste, qui doit désormais intervenir très en amont de la mise en place de procédures qui aboutiront à la production de documents dématérialisés. C'est pourquoi l'archivage électronique est pour nous un enjeu essentiel. C'est une des principales orientations que j'ai voulu donner à l'action de ma direction. Dans un cadre interministériel, le programme intergouvernemental pour une administration électronique, ADEL, comme international. Mémoire vivante aussi, disais-je, bien sûr parce que classée, et donc communicable et communiquée par les archivistes et par les services d'archives, selon les modalités les plus diverses. J'en citerai quelques-unes. Classement, mise au point d'instruments de recherche, publication, numérisation de documents, mise en ligne d'inventaire ou d'état des fonds, constitution de portail, j'y insiste, partenariat avec les chercheurs, ceux-ci existent, ils doivent être à la fois plus valorisés et développés. Car historiens et archivistes sont autour de la mémoire et de l'histoire indissolublement liés. Le temps ne me paraît pas pourtant venu d'une mémoire totalement virtuelle. En toute hypothèse, les stocks existent, les flux pour le moment restent de papier pour l'essentiel. L'espace donc demeure, pour les archives et les archivistes, une préoccupation première. Archives nationales, la mémoire en ces lieux, les lieux de la mémoire. L'histoire des archives nationales est en effet aussi celle de leur localisation, de leur bâtiment. Cette histoire apparaît comme une quête incessante d'espace supplémentaire, dans laquelle les réponses apportées à ce besoin reflètent à la fois l'intérêt porté aux archives, la conception que l'on a d'elles, et plus largement l'idée que l'on se fait des institutions de notre pays. Cette histoire se déroule chronologiquement en des lieux différents. Elle commence à Paris, ou plutôt à Versailles, vous ai-je dit tout à l'heure. Et le transfert aux Tuileries, en août 1789, reflète le souci de suivre le principal et unique producteur d'alors, l'Assemblée. Elle va, au début du XIXe siècle, de la dispersion des dépôts à la centralisation des archives impériales au palais Soubise. La centralisation est fixée pour les archives déjà constituées par le décret du 15 mars 1805, qui précise que toutes les archives existantes à Paris, sous quelque dénomination que ce soit, et disséminées dans plusieurs édifices, dont les ministères et la bibliothèque impériale, seront réunies dans le même local, sous une même autorité. Le décret organise aussi le versement obligatoire des documents de plus de 50 ans. Le choix de ce local, destiné à la centralisation, l'hôtel de Soubise, est fait en 1808 et annoncé en 1809. Le lieu n'est pas des plus fonctionnels, mais il est superbe et prestigieux. Il semble toutefois insuffisant lorsqu'à partir de 1810, Donoux et ses collaborateurs sont chargés de réunir à Paris les archives historiques, en fait très contemporaines, des différents pays de l'Empire, en vue de réaliser le rêve, ou du moins un des rêves de l'empereur. Créer un palais destiné aux archives de l'Empire dans un quartier en projet, le quartier Napoléon, qui s'étendra entre les ponts de la Concorde et d'Iéna sur l'ancienne île aux Cygnes. La défaite tuera ce rêve et dès le retour des Bourbons, les archives de pays étrangers repartent vers ceci. Les archives nationales, quant à elles, s'étendant peu à peu, élargissent l'emprise de Soubise à ce que nous appelons maintenant le quadrilatère, au cœur du Marais, tout au long du XIXe et du XXe siècle. Louis-Philippe construit le bâtiment qui porte son nom, œuvre de Dubois et de Lelong, dont la première tranche est achevée en 1848. Napoléon III commence à édifier les grands dépôts. Parallèlement, les hôtels mitoyens sont acquis à Sciez et Breteuil. Au XXe siècle, les récupérations ou acquisitions se poursuivent. L'hôtel de Rohan, gagné de haute lutte en 1927 lorsqu'il est abandonné par l'imprimerie nationale. L'hôtel de Fontenay, acquis en 1946, qui abrite aujourd'hui la direction à la tête de laquelle je suis. L'hôtel de Jaucourt, en 1962. De même que sont menés deux chantiers considérables, la construction de nouveaux dépôts par Charles Brébon, ouvert en 1959, la création par Jean et Lucie Favier d'un bâtiment reposant sur une conception moderne de la communication, le Caran. Inauguré en 1988, il a connu depuis, en dépit de son apport incontestable, des ordres et des boires, le dernier en date, lié à la découverte d'amiante, n'étant pas le moindre. Trois observations méritent d'être faites à cet égard. D'une part, les périodes de construction et d'agrandissement ne sont pas le fruit du hasard. Elles correspondent à des moments où le pouvoir politique, conscient de l'importance des archives, à partir desquelles il cherche à consolider sa légitimité, décide de les mettre en valeur et de les ouvrir aux citoyens. Elles coïncident aussi avec la présence de gardes ou de directeurs généraux des archives qui n'épargnent ni efforts ni pédagogie en vue de persuader les autorités publiques de la nécessité d'un nouveau bâtiment. La conjonction des deux est indispensable pour que le processus aboutisse. D'autre part, ces extensions ne sont pas une fuite en avant, mais plutôt un rattrapage permanent, car durant toute la période, alors même que les processus de versement et de sélection se précisent et s'améliorent, les flux ne cessent de croître, suscitant un intérêt grandissant du public. Enfin, l'on se rend assez vite compte après la guerre, et pour des raisons très simplement spatiales, que l'expansion au cœur du Marais est désormais terminée. Les archives nationales commencent alors à se déployer ailleurs, sur le territoire métropolitain. La sortie de Paris se fait en plusieurs phases, dont chacune traduit une nouvelle étape de la politique archivistique, s'efforce de répondre à de nouveaux besoins. Le Centre des archives contemporaines est ainsi conçu en 1967 comme un lieu de pré-archivage. On l'installe à Fontainebleau. La première unité est inaugurée en 1977. Si cette conception de pré-archivage ne résiste guère à l'épreuve du temps, le centre s'avère très vite comme la ressource indispensable et première en matière de collecte et de conservation des archives publiques contemporaines qu'il communique également. Le Centre des archives contemporaines accueille et constitue pour les historiens de demain la mémoire d'aujourd'hui. Parallèlement, la fin de l'Empire colonial, conduit à partir des années 50 et jusqu'en 1962, a organisé l'accueil des archives revenant à la France. Après des hébergements divers et peu satisfaisants, l'ouverture en 1966 de ce qui était alors l'annexe des archives nationales à Aix-en-Provence apportait une réponse aux problèmes posés par la décolonisation. Cette réponse fut parachevée lorsqu'en 1986, l'ensemble des fonds d'outre-mer présents aux archives nationales furent transférés à Aix. Cela n'alla pas sans mal. Le bâtiment fut ensuite agrandi. Il fonctionne aujourd'hui à la satisfaction de tous. Se posait aussi la question de la conservation des microfilms originaux dans un site différent de celui où ils étaient utilisés, où les copies étaient utilisées. L'on décida en 1968, sous le « entre guillemets règne d'André Chanson », la construction à Espéran, dans le Gard, du dépôt central de microfilms qui entra en service en 1973. La dernière phase ne remonte qu'à une dizaine d'années. L'on commençait alors à s'intéresser au patrimoine industriel sous toutes ses formes, y compris archivistique. L'idée naquit d'établir sur l'ensemble du territoire 5 centres destinés à accueillir les fonds du monde du travail. Un seul vit le jour, il ouvrit ses portes à Roubaix en 1993, dans un lieu ô combien adapté et emblématique, l'ancienne usine textile Meute Bossu, véritable cathédrale industrielle élevée par une dynastie du textile. Nouveaux besoins donc, nés de l'évolution de nos institutions, écrits dans l'esprit des politiques générales alors menées, des concentrations et aménagements du territoire, reflet enfin de l'extension des champs et des centres d'intérêt à la fois des acteurs de la culture et des historiens. La réponse apportée au fil des années présente des avantages certains. Les archives nationales, disposant d'une meilleure couverture territoriale, peuvent à la fois toucher des publics différents et nouer des partenariats locaux, universitaires en particulier, sans perdre leur vocation nationale. Les archives nationales ont pu aussi très fortement augmenter leur capacité de conservation. Il n'en reste pas moins qu'il en résulte une dispersion géographique qui rend plus difficile la coordination entre les différents centres et la mise en place d'une action concertée et cohérente. Il n'en reste pas moins que ce réseau n'est pas loin de la saturation, d'où la nécessité vitale d'un nouveau centre. Le président de la République en a annoncé le principe et les caractéristiques il y a tout juste un an. D'une capacité de 320 km linéaires, il est destiné à collecter, conserver et communiquer les archives des administrations centrales de l'État depuis 1790 et pour les 30 ans à venir. Il vient s'ajouter au centre parisien et Belle-Lifontaine qui demeure. La localisation à Pierrefitte-sur-Seine, à proximité immédiate de l'Université de Saint-Denis, à la sortie du métro Saint-Denis-Université, devrait faciliter la venue du public. Elle est également symbolique à plusieurs titres. Cette implantation à quelques encablures de la basilique de Saint-Denis renoue avec les très riches heures du nord de Paris, mais elle inscrit aussi les archives, trop souvent confondues avec le passé réduit à lui, dans un espace en plein mouvement au sein d'une population jeune, plurielle, à l'image de la France d'aujourd'hui. Une telle situation doit et devra nous encourager à conquérir ou à séduire de nouveaux publics. Depuis le 9 mars 2004, beaucoup a été fait. Une concertation est menée avec les collectivités territoriales, avec les agents et leurs représentants, avec un comité scientifique dont certains d'entre vous m'ont fait l'honneur d'accepter d'être membre. 5 équipes d'architectes ont été choisies, qui travaillent à la première esquisse. Une équipe de projet se met en place, dirigée par Isabelle Lejevander, conservateur général du patrimoine. Des groupes de travail ont réfléchi à différents aspects de la mission du nouveau centre. Le financement budgétaire pluriannuel est défini. Beaucoup reste à faire cependant. L'architecte lauréat sera choisi fin avril. Des questions importantes devront être résolues. Elles concernent l'organisation du nouveau centre, l'articulation des centres franciliens, le statut juridique, l'unité des archives nationales, alors qu'apparaît un site de plus, le système d'information, sans parler de la préparation des collections et de leur transfert. Vaste programme, difficile mission, mais chance extraordinaire que d'avoir aujourd'hui un tel projet à conduire. Le nouveau centre devrait ouvrir fin 2009. Les archives nationales, élément du réseau des archives de France et en France. Il ne faut jamais oublier, en effet, que les archives nationales sont un des maillons essentiels, sans doute, mais un des éléments seulement, du réseau que constituent les archives en France. Pour certains, réseau est synonyme de dispersion et éclatement, et cela en particulier depuis qu'en 1983 en droit et en 1986 en fait, les services publics départementaux d'archives ont été décentralisés. Cela n'est pourtant pas mon opinion. Bien sûr, la diversité des intervenants rend plus nécessaire et plus difficile à la fois la coordination et la cohérence de la politique archivistique menée sur le territoire. Mais en même temps, les liens qui unissent ce réseau très spécifique à la France sont suffisamment forts pour que cet ensemble soit surtout un atout pour les archives de France. Comment s'organise ce réseau ? Au niveau national, 3 structures doivent être signalées. D'abord, la Direction des archives de France, direction d'administration centrale, rattachée depuis 1959 au ministère de la Culture. Au terme de l'arrêté qui l'a réorganisé en 2002, la Direction des archives de France conçoit, anime, oriente, évalue et contrôle l'action de l'État en matière d'archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles. Elle veille à la sauvegarde des archives privées, présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public. Ensuite viennent les archives nationales, dont je vous ai déjà longuement parlé, dépôts centraux de l'État, au terme de l'article 5 du décret du 3 décembre 1979. Enfin, je ne manquerai pas de signaler l'existence de services autonomes, c'est-à-dire ceux du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense, qui, depuis l'Ancien Régime, disposent d'une complète autonomie pour l'organisation et la gestion de leurs archives. Le ministère des Finances, lui, ne bénéficie que d'une autonomie de conservation. Au niveau local, sont à signaler en premier lieu les archives départementales, décentralisées donc depuis 1983-86. Financées par les conseils généraux, les services d'archives départementaux sont dirigés par un conservateur du patrimoine, fonctionnaire d'État, mis à disposition de la collectivité. Ces services accueillent pour les 2/3 en moyenne des archives de l'État, conformément à l'obligation qui leur en est faite par l'article pertinent du Code général des collectivités territoriales. Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'État. De même que les services d'archives municipales, qui sont au nombre de 400 environ en France, mais qui ne bénéficient pas, quant à eux, ne s'intéressant qu'aux archives de la commune, de mise à disposition de fonctionnaires d'État. Il est à noter qu'une commune peut choisir de déposer ses archives au service départemental. Elle y est obligée si elle compte moins de 2000 habitants. Il faut enfin signaler qu'il existe des services régionaux d'archives et que commencent à se mettre en place, suivant l'évolution des institutions, des services d'archives auprès de certaines intercommunalités. Mais il n'y a dans ces hypothèses ni maillage systématique, ni évidemment à nouveau mise à disposition de fonctionnaires d'État. L'ensemble de ces services, comme les services d'archives des organismes publics ou des établissements publics, est donc soumis au contrôle de l'État. Ce réseau se maintient grâce à trois facteurs. Premier facteur, les femmes et les hommes qui le composent et l'animent. Leurs compétences reconnues de tous, qui pour les directeurs d'archives départementales les aident à s'affirmer dans des contextes parfois peu aisés, leur qualité, leur mobilité en font le ciment de cet ensemble. Je voudrais leur rendre ici, devant vous, un hommage appuyé. Je voudrais aussi insister, au-delà du personnel d'État, sur l'effort considérable accompli par certaines collectivités territoriales en vue d'augmenter le personnel spécialisé dans les services. Nous poursuivons le même objectif, encore plus généralement, pour tout service d'archives constitué. La professionnalisation de ceux-ci, la formation initiale et continue de leurs responsables et de leurs agents sont un gage d'efficacité, une garantie de sauvegarde, dans de bonnes conditions, des archives. Car conserver des archives et les communiquer ne se fait pas comme M. Jourdain faisait de la prose. Cela obéit à des règles précises. Deuxième facteur, le contrôle scientifique et technique de l'État que j'ai évoqué précédemment et qui est mis en œuvre sur le plan national par l'Inspection générale des archives de France, sur le plan local par les personnels d'État en poste. Ce contrôle vise à vérifier si les règles d'élimination, de classement, de collecte sont respectées et ce faisant aide à l'unité de l'action. Ce système a inspiré celui qui est en train de se mettre en place dans le cadre de la décentralisation de l'inventaire. Troisième facteur qui concerne exclusivement les collectivités territoriales, le partenariat avec l'État à travers l'aide à la construction de bâtiments, l'aide à la mise en œuvre de politiques d'acquisition d'archives privées, de numérisation d'archives, présentant pour nos concitoyens un intérêt particulier, état civil de plus de 100 ans, cadastre, etc. Ce réseau, aussi cohérent soit-il encore, ne peut vivre refermé sur lui-même. Il est étroitement dépendant en amont de ce qu'il alimente et en aval de ce qu'il utilise, les deux fonctions pouvant être cumulées par la même personne ou la même institution. En amont, le réseau doit vivre en bonne intelligence avec les producteurs d'archives. Et en tout premier lieu, les producteurs d'archives publiques, dont la définition est donnée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979, car la collecte et la conservation de ces archives constituent notre vocation première, le cœur de notre métier. La bonne intelligence suppose d'abord la bonne compréhension de l'organisation institutionnelle de notre pays et la capacité à s'adapter à ces évolutions. Par exemple, l'apparition de nouvelles missions de l'État, comme la politique de la ville, nous a conduit à développer une coopération en cours avec la délégation à la ville. Ou bien la décentralisation. Nous sommes en train de travailler aux conséquences en matière archivistique de la loi d'août 2004. La bonne intelligence suppose ensuite le travail ensemble. La présence de missionnaires dans les ministères en offre un exemple permanent. L'élaboration de tableaux de gestion, la coopération avec le ministère de l'Intérieur sur la dématérialisation du contrôle de légalité ou avec celui des finances sur les marchés publics électroniques en donne des illustrations plus conjoncturelles. La bonne intelligence signifie enfin la sensibilisation et la responsabilisation des administrations, qu'il s'agisse de la gestion des archives courantes ou intermédiaires, circulaire du 2 novembre 2001, ou plus fondamentalement, de la prise de conscience de l'importance des archives comme outil d'une administration efficace et moderne. En deuxième lieu, nous sommes liés, dans un esprit et des conditions juridiques bien sûr très différents, aux, ou du moins à des producteurs, des propriétaires d'archives privées. Il y a en effet de plus en plus de ces archives dans nos services. Elles arrivent selon des voies juridiques diverses, acquisition, don, dation, dépôt, qui entraînent ou non transfert de propriété. Elles illustrent le souci, exprimé surtout à partir de Charles Brébon, de sauvegarder des fonds qui sont parfois des compléments extraordinaires aux fonds publics. Le même souci inspire la relance que j'ai voulu de la politique de classement d'archives privées comme archives historiques. En aval, notre réseau dépend bien sûr étroitement pour sa survie et son maintien de ses utilisateurs. Il se doit donc d'être au service des Français, à prendre désormais dans un sens très large. Aux historiens et aux étudiants sont venus s'ajouter en effet, d'une part, les généalogistes ou les simples curieux à la recherche de leur histoire familiale et spatiale, d'autre part, des citoyens en quête de documents faisant preuve ou établissant des droits. Les archives demeurent bien source de l'histoire, avec une majuscule ou non, mais deviennent de plus en plus, aujourd'hui à nouveau, des sources de droits, des lieux de preuve. Aux archives nationales, cela concerne surtout les questions de spoliation des biens juifs, à travers les archives du commissariat général aux questions juives et de nationalité, décret de naturalisation. Reflet, bien sûr, de deux problématiques essentielles de notre actualité, si bien que plus de 200 ans après la Révolution, on retrouve cette valeur juridique des archives, mais qui désormais intéresse une majorité de citoyens et non une minorité. N'est-ce pas là une autre preuve de la démocratisation de notre société, des phénomènes de masse, toute proportion gardée, qu'elle connaît? Je n'aurai garde enfin d'oublier de vous préciser que ce réseau national est en prise étroite avec la communauté archivistique internationale. Et cela de trois manières au moins. Le quadrilatère de Soubise abrite le secrétariat général du Conseil international des archives, organisation non gouvernementale internationale, dont j'ai l'honneur de présider la branche européenne depuis 2001. De façon ancienne et régulière, historiens et chercheurs étrangers fréquentent pour leurs travaux archives nationales ou territoriales. Deux exemples seulement, Robert Paxton pour son histoire de Vichy ou Steve Kaplan pour sa somme sur le pain. De façon plus nouvelle et croissante, sont réalisées des opérations de coopération bilatérale classique avec l'édition de guides des sources symétriques avec la Pologne ou plus innovantes avec par exemple l'élaboration d'un portail France-Canada avec la numérisation de l'état civil de l'Algérie. Sont aussi menées des actions multilatérales. Ce panorama, même rapide au regard du sujet traité, suffit à montrer l'ampleur du champ couvert par les archives en France et tout particulièrement par les archives nationales. Il laisse aussi deviner l'importance des attentes qu'elles suscitent. Cela n'est point étonnant puisque sont en cause les documents d'archives, c'est-à-dire au terme de la définition de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1979, je cite, « l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. » Cette ampleur du champ, même si on le réduit au domaine public, explique qu'en dépit de tous les efforts, des secteurs ne soient pas couverts, des ponts non contrôlés, des archives non ouvertes. Quelle folle présomption serait la nôtre si nous prétendions ou voulions le contraire? C'est la vie publique même qu'il s'agirait d'archiver. Il paraît plutôt préférable d'essayer de faire relayer notre action par des correspondants mieux formés et informés, de veiller aussi à ce que des initiatives spontanées prises par les uns ou les autres en matière d'archives obéissent aux règles de base de l'archivistique, en particulier le respect de l'unité du fond. Il faut piloter et animer, encadrer ce qui est fait. De telles orientations sont d'autant plus nécessaires que nous vivons dans un contexte d'emploi public de plus en plus difficile. D'autant plus nécessaire aussi que l'accroissement de l'intérêt pour les archives peut avoir des conséquences perverses. Tout le monde veut s'occuper, parfois n'importe comment, d'archives. L'importance sociale et politique des archives peut avoir aussi en matière d'ouverture les effets les plus opposés. Tout ouvrir, réclament certains qui fustigent des archives interdites. Bien clore, pensent d'autres, pour qui la transparence ne va pas jusque-là. S'explique peut-être ainsi le difficile cheminement du projet de loi sur les archives en cours depuis plusieurs années et que j'espère voir aboutir cette année. Les documents d'archives ne sont donc pas des objets inanimés, sans valeur. À ceux qui me parlent le vieux papier sans importance, je pourrais rétorquer ce qui se passe actuellement en Roumanie, où l'ouverture des archives de la Securitate est réalisée et vécue comme une avancée de la démocratie avant l'entrée programmée dans l'Union européenne. Dans cet événement, comme dans d'autres, je trouve confirmation du bien fondé, du but que je m'efforce de poursuivre, dans la lignée de mes prédécesseurs et avec l'aide et le soutien bien entendu du ministre de la Culture et de la Communication, but que notre réseau ne pourra atteindre qu'en renforçant encore les liens noués avec ceux qui l'enrichissent, ceux qui s'y intéressent et ceux qui s'en servent. But ambitieux et simple à la fois, faire des archives, grenier de l'histoire et arsenal de l'administration, disait Charles Brébon en soulignant la deuxième dimension, faire donc des archives le bien des citoyens, le bien de tous les Français. Je vous remercie.
C'était Madame Martine de Boisdeffre, directeur des Archives de France. Madame de Boisdeffre venue présenter une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 21 mars 2005 au palais de l'Institut de France, quai de Conti à Paris. Thème de la communication, les archives nationales. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de la transcription de ce texte ainsi que des autres communications prononcées en séance publique le lundi tout les lundis à 15h au palais de l'Institut. Le site qui vous accueille pour ces transcriptions de textes, le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr, ou tout simplement votre site, le site de votre radio, www.canalacademie.com. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de votre programme.